Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Aujourd'hui, je lis des extraits du livre « Secrets des fourmis, encyclopédie du savoir relatif et absolu » de Bernard Werber. Je me souviens être tombée sur ce livre dans une brocante, à Menton, il y a longtemps, sous le soleil et les palmiers, face à la mer, et que rentrée à l'hôtel, je l'avais dévoré. Je suis retombée dessus un peu par hasard, et j'aime beaucoup ce mélange entre physique, biologie, philosophie, technologie, spiritualité, mystique et même gastronomie. Le livre est composé d'une série de vignettes d'une page ou deux. La quatrième de couverture nous dit qu'y sont révélés, entre autres, le secret de la pierre philosophale, les projets des tyrans, les plus vils et les plus belles utopies. Les rencontres des civilisations humaines et animales, le sens caché des fugues de Bach et la naissance de l'esclavage chez les rats. Morceau choisi. Comment devant un obstacle, un être humain a pour premier réflexe de se demander « Pourquoi y a-t-il ce problème ? Et de qui est-ce la faute ?» Dans la même situation, la fourmi a pour premier réflexe de se demander « Comment et avec l'aide de qui vais-je pouvoir le résoudre ?» Il y aura toujours une grande différence entre ceux qui se demandent pourquoi et ceux qui se demandent « Comment ?» Le dauphin. Le dauphin est un animal énigmatique. C'est l'un des mammifères possédant le plus gros volume cérébral par rapport à sa taille. Alors que le cerveau du chimpanzé pèse en moyenne 375 grammes et que celui de l'homme pèse 1450 grammes, celui du dauphin pèse 1700 grammes. Avec un tel cerveau, il est certain que le dauphin a de très grandes capacités à comprendre les symboles et à fabriquer un langage. Pourtant, en dehors de leur formidable aptitude à jouer aux jeux humains et aux acrobaties de cirque type Marineland, on dirait que leur intelligence ne leur sert à rien. Est-ce bien certain? Le dauphin est un cétacé, c'est-à-dire un mammifère marin. Comme nous, il respire de l'air. Les femelles allaitent leurs petits et accouchent sans pondre d'œufs. Ils sont mammifères, car jadis, ils ont vécu sur Terre. Oui, vous avez bien lu. Jadis, les dauphins avaient des pattes et marchaient et couraient sur le sol. Ils devaient ressembler à des crocodiles ou à des phoques. Ils ont vécu sur Terre et puis un jour, pour des raisons inconnues, on dirait qu'ils en ont eu marre. Ils sont revenus dans l'eau. Ils venaient comme nous de l'eau. Ils s'étaient adaptés à la terre. Et puis, hop, demi-tour, ils ont considéré que l'eau, c'était finalement mieux. On peut aisément imaginer ce que les dauphins seraient devenus de nos jours s'ils étaient restés sur la croûte terrestre avec leur gros cerveau de 1,7 kg. Des concurrents. Ou plus probablement des précurseurs. Pourquoi l'eau ? L'eau a certes des avantages que n'a pas le milieu terrestre. On peut s'y mouvoir dans trois dimensions, alors que sur Terre, nous sommes collés au sol. Dans l'eau, il n'y a pas besoin de vêtements, il n'y a pas besoin de maison, il n'y a pas besoin de chauffage, la nourriture est abondante. S'approcher d'un banc de sardines, c'est comme aller au supermarché, si ce n'est que c'est gratuit. En examinant le squelette du dauphin, on peut vérifier que ses nageoires contiennent encore l'ossature des mains aux longs doigts, dernier vestige de sa vie terrestre. C'est peut-être sur ce détail que tout s'est joué. Ses mains s'étant transformées en nageoires, le dauphin pouvait certes se mouvoir à grande vitesse dans l'eau, mais il ne pouvait plus fabriquer d'outils. C'est peut-être parce que nous étions très mal adaptés à notre milieu que nous avons inventé tout ce délire d'objets qui complètent nos possibilités organiques. Le dauphin, étant heureux dans l'eau, n'avait besoin ni de voiture, ni de télévision, de fusil ou d'ordinateur. Il semble par contre que les dauphins ont bel et bien développé un langage qui leur est propre. C'est un système de communication acoustique s'étendant sur un très large spectre sonore. La parole humaine s'étend des fréquences de 100 à 5000 Hz, la parole dauphin couvre la plage de 3000 à 120000 Hz. Cela permet évidemment beaucoup de nuances. Selon le docteur John Lilly, directeur du laboratoire de recherche sur la communication de Nazareth Bay, les dauphins semblent depuis longtemps désireux de communiquer avec nous. Ils approchent spontanément des gens sur les plages et des bateaux et sautent, bougent, sifflent comme s'ils voulaient nous faire comprendre quelque chose. Ils semblent même parfois agacés lorsqu'on ne les comprend pas, remarque-t-il. Ce comportement pédagogue à notre égard est unique dans tout le monde animal. Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux. Être ensemble. Selon la philosophie soufie, l'une des premières règles du bonheur consiste à s'asseoir avec des amis ou des gens qu'on aime. On s'assoit, on ne dit rien, on ne fait rien, on se regarde ou on ne se regarde pas. Toute l'extase vient du plaisir d'être entouré de gens avec lesquels on se sent bien. Plus besoin de s'occuper ou d'occuper l'espace sonore. On se contente d'apprécier cette muette coexistence. Irréfutable. Ce n'est pas parce que l'on rencontre trois corbeaux noirs que tous les corbeaux sont noirs. Selon le réfutationnisme de Karl Popper, il suffit de trouver un corbeau blanc pour prouver que cette loi est fausse. Et tant qu'on n'a pas trouvé de corbeau blanc, on ne peut pas vraiment savoir si tous les corbeaux sont noirs ou pas. De même, la science est toujours réfutable. Il n'y a que ce qui n'est pas scientifique qui est irréfutable. Si quelqu'un vous dit par exemple « les fantômes existent », c'est irréfutable parce qu'il n'y a aucun moyen de prouver que c'est faux. On ne peut pas trouver de contre-exemple. Par contre, si l'on dit « la lumière va toujours en ligne droite », c'est réfutable. Il suffit de mettre une lampe de poche dans une bassine d'eau pour voir que sa lumière est déformée sur sa surface. Vieillard. En Afrique, on pleure la mort d'un vieillard plus que la mort d'un nouveau-né. Le vieillard constituait une somme d'expérience qui pouvait profiter au reste de la tribu, tandis que le nouveau-né, n'ayant pas vécu, n'a même pas conscience de sa mort. En Europe, on pleure le nouveau-né car on se dit qu'il aurait sûrement accompli des choses fabuleuses s'il avait vécu. On porte par contre peu d'attention à la mort du vieillard. De toute façon, il avait déjà profité de la vie. Le yin et le yang. Tout est en même temps yin et yang. Dans le bien, il y a du mal, et dans le mal, il y a du bien. Dans le masculin, il y a du féminin, et dans le féminin, il y a du masculin. Dans le fort, il y a de la faiblesse, et dans la faiblesse, il y a de la force. C'est parce que les Chinois ont compris cela il y a plus de 3000 ans qu'on peut les considérer comme les précurseurs de la relativité. Le noir et le blanc se complètent et se mélangent pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux. Qui êtes-vous ? Mais au fait, qui êtes-vous ? J'aimerais vous connaître mieux, cher lecteur inconnu, cher auditeur inconnu. Ce livre est interactif. Déclinez vos noms, âge, sexe, nationalité, profession. Décrivez-vous. Quels sont vos pôles d'intérêt dans la vie ? Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? Quel est votre souvenir le plus agréable et le plus pénible ? Parlez-moi un peu de vos parents, de vos amis et de vos ambitions. Quel genre de musique écoutez-vous ? Quel genre de livres lisez-vous ? Qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus ? Oh, et puis peu importe, je sais qui vous êtes. Je sens vos mains qui caressent mes pages. C'est assez jouissif d'ailleurs. Sur le bout de vos doigts, dans les sinuosités de vos empreintes digitales, je lis vos caractéristiques les plus secrètes. Tout est inscrit dans le moindre fragment de vous. Je perçois même les traces de vos ancêtres. Dire qu'il a fallu que ces milliers de gens ne meurent pas trop jeunes, draguent et s'accouplent pour arriver jusqu'à votre naissance. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vous voir en face de moi. Non, ne souriez pas. Restez naturel. Laissez-moi voir plus profondément en vous. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas seulement un nom et un prénom avec une histoire sociale. Vous êtes 71% d'eau claire, 18% de carbone, 4% d'azote, 2% de calcium, 2% de phosphore, 1% de potassium, 0,5% de soufre, 0,5% de sodium, 0,4% de chlore. Plus une belle cuillère à soupe d'oligo-éléments divers. Magnésium, zinc, manganèse, cuivre, iode, nickel, brome, fluor, silicium, et une petite pincée de cobalt, aluminium, molybdène, vanadium, plomb, étain, titane, bore. Voilà la recette de votre existence. Tous ces matériaux proviennent de la combustion des étoiles et ils sont répartis ailleurs que dans votre corps. Votre eau est similaire à celle du plus anodin des océans. Votre phosphore vous rend solidaire des allumettes et votre chlore est semblable à celui qui sert à désinfecter les piscines. Mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes une cathédrale chimique, un jeu de construction faramineux avec des dosages, des équilibres, des mécanismes d'une complexité à peine concevable. Car vos molécules sont elles-mêmes formées d'atomes, de particules, de quarks, de vides, le tout lié par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, électroniques, d'une subtilité qui vous dépasse. Quoique, si vous avez réussi à trouver ce volume, c'est que vous êtes malin et que vous connaissez déjà beaucoup de choses de mon monde. Qu'avez-vous fait de ce savoir ? Peut-être une révolution ? Peut-être une évolution ? Sûrement rien. Maintenant, installez-vous un peu mieux, pour lire, pour écouter. Tenez votre dos bien droit, respirez plus amplement, décontractez votre bouche, écoutez-moi. Tout cela, tout ce qui vous entoure dans le temps et dans l'espace ne sert pas à rien. Vous ne servez pas à rien. Votre vie éphémère a un sens. Elle ne mène pas nulle part. Tout a un sens. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, en train de lire, en train d'écouter. Respirez amplement. Détendez vos muscles. Ne pensez plus à rien d'autre qu'à l'univers dans lequel vous n'êtes qu'une infime poussière. Imaginez le temps en accéléré. Pouf, vous naissez. Éjecté de votre mère comme un vulgaire noyau de cerise. Tchac tchac, vous vous empiffrez de milliers de plats multicolores, transformant quelques tonnes de végétaux et d'animaux en excréments. Pif, vous êtes mort. Qu'avez-vous fait de votre vie ? Pas assez. Faites quelque chose, n'importe quoi, de tout petit même. Mais bon sang, faites quelque chose de votre vie avant de mourir. Vous n'êtes pas né pour rien. Trouvez pourquoi vous êtes né. Quelle est votre minuscule mission ? Vous n'êtes pas né par hasard. Eh bien, cher Bernard Werber, si je peux me permettre un commentaire, cette affirmation se discute. En attendant d'y trouver une réponse réfutable ou irréfutable, écoutons la chanteuse italienne Mattia Bazar, Ti sento.
Thank you.
Chers auditeurs, merci. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les émissions d'Encore Heureux en podcast sur le site de Radio B. À très bientôt sur les bonnes ondes.